France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Qui pourrait me dire qui est Louise Dupin ? Même les meilleurs connaisseurs du siècle des Lumières et de l'encyclopédie, même les lecteurs les plus assidus des Confessions de Jean-Jacques Rousseau seraient bien embêtés pour en dire quelques mots. Louise Dupin, son nom ne vous dit donc sûrement rien. Lire son ouvrage sur les femmes, écrit vers 1740, a pourtant quelque chose d'étonnant. L'impression de lire un texte familier, contemporain, qui ne prétend pas démontrer la supériorité des femmes, mais leur égalité. Mais avec quel argument et pour mettre en place quelle réforme ? Là était la nouveauté de la philosophie de Louise Dupin.
Madame Dupin était, comme on sait, fille de Samuel Bernard et de Madame Fontaine. Elles étaient trois sœurs qu'on pouvait appeler les Trois Grâces. Madame Dupin, la plus belle des trois, et la seule à qui l'on n'ait point reproché d'écart dans sa conduite. Elle fut le prix de l'hospitalité de Monsieur Dupin, à qui sa mère la donna avec une place de fermier général et une fortune immense, en reconnaissance du bon accueil qu'il lui avait fait dans sa province. Elle était encore, quand je la vis pour la première fois, une des plus belles femmes de Paris. Elle me reçut à sa toilette. Elle avait les bras nus, les cheveux épars, son peignoir mal arrangé. Cet abord m'était très nouveau. Ma pauvre tête n'y tint pas. Je me trouble, je m'égare. En bref, me voilà épris de Madame Dupin. Mon trouble ne parut pas me nuire auprès d'elle. Elle ne s'en aperçut point. Elle accueillit le livre et l'auteur, me parla de mon projet en personne instruite, chanta, s'accompagna du clavecin, me retint à dîner, me fit mettre à table à côté d'elle. Il n'en fallait pas tant pour me rendre fou. Je le devins.
Bonjour Frédéric Marty.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes docteur en littérature, professeur agrégé en lycée, chargé de cours à l'université de Cergy, Paris Université. Vous êtes l'auteur de Louise Dupin, Défendre l'égalité des sexes en 1750, paru aux éditions Classiques Garnier l'année dernière. On vous doit plusieurs éditions des textes de Louise Dupin, l'édition critique de son ouvrage Des femmes, observation du préjugé commun sur la différence des sexes aux éditions Classiques Garnier, paru cette année, et puis l'édition aussi de son discours préliminaire des femmes, donc de cet ouvrage sur les femmes, paru cet été aux éditions Payot. Alors, on l'a compris, je crois, on va parler de Louise Dupin pendant une heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter Louise Dupin ? On a entendu la présentation, le portrait qu'en trace Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions, c'est le livre 7. Mais c'est un portrait d'amoureux, ça ne dit pas grand-chose sur la philosophie de Louise Dupin.
C'est vrai. Alors, en le réécoutant, le texte de Rousseau est magnifique. On voit Rousseau fou d'amour pour Louise Dupin. On voit la figure des Trois Grâces. Enfin, c'est un très beau texte et qui nous permet effectivement d'introduire la présentation de Louise Dupin. Alors, Louise Dupin, c'est une salonnière brillante. Elle bénéficie d'un héritage familial exceptionnel. Son père, comme le dit Rousseau, est le financier Samuel Bernard qui est un banquier capital en Europe à cette époque-là. Il a prêté des sommes à Louis XIV lui-même, qu'il a anobli en retour. Et du côté de sa mère, Manon d'Ancourt, elle est comédienne à la Comédie Française et elle descend d'une lignée de comédiens et de dramaturges. Son grand-père est Florent d'Ancourt, le célèbre dramaturge comique, successeur de Molière. Et l'arrière-grand-père de Louise Dupin, c'est La Tourillière, qui est un proche de Molière. Donc on peut dire que les bonnes fées se sont penchées sur son berceau.
Oui, disons qu'elle était privilégiée, ça c'est indéniable. Par contre, pour la suite de l'histoire, parce que voilà, célèbre en son temps, célèbre salonnière, beaucoup d'argent, venant d'une héritière finalement, mais pour la suite, aujourd'hui parler de Louise Dupin, c'est quand même se confronter, sauf à tomber sur un de vos livres, Frédéric Marty, c'est quand même se confronter sur du silence, et puis aussi sur du silence non seulement sur qui elle était, hormis définit Jean-Jacques Rousseau, mais surtout sur ce qu'elle a écrit. Parce que voilà, Louise Dupin, elle a écrit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle a écrit comme type de texte et pourquoi elle a brillé aussi comme intellectuelle au siècle des Lumières ?
Alors, elle a commencé par écrire des petits traités de morale sur l'éducation, sur l'amitié, sur le bonheur, d'inspiration plutôt épicurienne sur le bonheur. Et puis, dans les années 1740, elle formule le projet de défendre l'égalité des sexes. Ce projet va s'échelonner sur plusieurs années. C'est un projet très ambitieux qui nécessite des recherches approfondies. Et voilà, elle veut défendre l'égalité des sexes. Simplement, le projet va s'interrompre en 1751. Mmh. Et l'ouvrage est resté à l'état de manuscrit. De sorte que on n'a pas pu lire Louise Dupin pendant presque 3 siècles.
Ce qui explique aujourd'hui le silence qu'on a autour de Louise Dupin, c'est qu'en fait, aucun de ses textes n'a véritablement été publié, donc lu et donc travaillé, et qui a pu perdurer à travers les siècles, c'est ça ?
C'est ça, à part sa correspondance en 1884 et les traités dont j'ai parlé, effectivement, pendant plus de 2 siècles, les manuscrits sont restés aux mains des héritiers.
Mmh. Et puis donc George Sand, par exemple.
Alors George Sand, en fait, est l'arrière-petite-fille par alliance de Louise Dupin. Elle a la chance d'aller consulter les manuscrits au château de Chenonceau, puisque Louise Dupin a été propriétaire du château de Chenonceau avec son mari. Et Louise Dupin va chez son cousin. Louise Dupin est morte, donc elle va chez son cousin et elle a l'occasion de consulter ses nombreux manuscrits. Et elle les a lus, mais elle fait partie du petit nombre de personnes qui a lu les manuscrits Dupin depuis 1750.
Donc avec vous-même, Frédéric Marty, et avec vos travaux, nous aussi, on peut bénéficier en fait de la lecture des textes de Louise Dupin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu à travailler sur Louise Dupin, justement, alors même que ces manuscrits étaient lus par très peu de personnes et que même l'existence de ces manuscrits était presque inconnue ?
D'accord. Alors pour l'anecdote, en fait, je visitais le musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. C'était en 2005, je crois, et la guide m'a expliqué qu'il y avait des manuscrits conservés au musée de Montmorency pour lesquels Rousseau avait servi de secrétaire. Donc l'écriture est de Rousseau, mais le projet était conçu entièrement par une dame pour laquelle il a servi de secrétaire, et qui est Louise Dupin.
Donc Rousseau a été le secrétaire de Louise Dupin. Ça n'a pas seulement été, comme il le dit dans ses confessions, un habitué du salon de Louise Dupin, ou un amoureux transi et éconduit de Louise Dupin, mais le secrétaire de Louise Dupin.
C'est ça. Si on veut remettre en contexte l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, en fait, Rousseau arrive à Paris en 1743. Mm-hmm. Il arrive avec des projets musicaux, notamment un nouveau projet de notation musicale. Il pense percer à Paris et en fait, il nous explique qu'assez rapidement, il a peur de mendier son pain et de se retrouver sur le pavé de Paris. Donc, on lui conseille, l'abbé Castel lui explique qu'on ne réussit à Paris que par les femmes. Donc, il lui recommande trois grandes dames à aller visiter, dont Louise Dupin. Et c'est Louise Dupin qui va l'employer, effectivement, jusqu'en 1751. Louise Dupin n'est pas rancunière, elle n'en veut pas à Rousseau de sa déclaration d'amour, même si elle la rejette de manière assez glaciale, en fait. Hein. Mais 2 jours après, Rousseau écrit une lettre où il est confié, il a honte, ouais. Et Rousseau finalement sera engagé par Louise Dupin comme secrétaire de 1745 à 1751.
Donc, au moment où vous visitez le musée à Montmorency Rousseau, vous tombez en fait donc sur. Enfin, on vous parle de l'existence de ces manuscrits de Louise Dupin. Et pourquoi avez-vous envie de les lire ? Et qu'est-ce qui se passe quand vous les lisez pour que vous ayez envie, en fait, d'y consacrer quand même une thèse ? Et puis surtout, en fait, un vrai travail d'édition et de diffusion de sa pensée.
Alors, déjà, il y a l'émotion de travailler sur des manuscrits du XVIIIe siècle et pour le coup, des manuscrits de Rousseau. Mais c'est un véritable défi parce qu'en fait, les manuscrits ne se situent pas uniquement à Montmorency, mais ils ont L'ensemble des manuscrits a été vendu aux enchères dans les années 1950 par les héritiers. Du coup, les manuscrits sont pour partie à Montmorency, pour partie à Bordeaux, pour partie à Genève, et de nombreux manuscrits sont partis aux États-Unis, notamment à Austin, au Texas. Donc, il y a un vrai travail de reconstitution d'un puzzle.
Et pourquoi à Austin, au Texas?
Alors, parce que tout simplement, les manuscrits vendus aux enchères sont partis aux États-Unis, parce que les...
Il y avait des lecteurs au Texas de Louise Dupin,
Tout simplement, c'était les acquéreurs les plus intéressants et les mieux disants, on va dire. C'est une question de gros sous. Donc, les manuscrits sont partis au Texas. Une grande partie.
Donc, vous avez eu accès à ces manuscrits? Vous en partie
ou... Alors oui, j'ai eu l'occasion de voyager. Du coup, je suis parti un été au Texas, qui est une belle expérience. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur les manuscrits sur place pendant 2 mois. Et puis les manuscrits de Montmorency, c'était plus proche. Et puis les manuscrits de Genève.
Alors là, qu'est-ce que vous découvrez dans ces manuscrits?
Là, je découvre en fait une féministe très audacieuse. Très ambitieuse, et je découvre surtout un féminisme encyclopédique. C'est ça qui fait le véritable intérêt pour moi de cette recherche, c'est que ce n'est pas un petit sujet que les papiers Dupin, c'est vraiment un projet vaste qui vise à étudier la condition des femmes sous toutes les latitudes. Et à toutes les époques. Donc on a un vrai projet encyclopédique à l'époque même où Diderot et d'Alembert sont en train de préparer l'encyclopédie. Je pense que c'est ce qui caractérise le mieux le... Alors j'allais dire féminisme, mais gare à l'anachronisme en fait.
Oui, le terme de féministe. Demander, oui.
Voilà, le terme de féministe date de la fin du 19e siècle. C'est Hubertine Auclair, suffragette entre guillemets française, qui l'emploie véritablement officiellement. Donc voilà, on dira féministe par commodité, même si c'est un anachronisme, mais oui, c'est un féminisme encyclopédique.
Alors pourquoi encyclopédique? Parce qu'elle décide de... Alors féminisme, on a compris, elle va œuvrer pour l'égalité des femmes. Enfin, je dis on a compris, non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas vraiment insisté sur le type de pensée féministe qu'elle pouvait mettre en œuvre. Et puis ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire encyclopédique? Donc est-ce que vous pouvez répondre à ces deux grosses questions?
Avec plaisir. Alors première question... Le féminisme de Louise Dupin est un féminisme original et singulier. Le féminisme, entre guillemets, j'y reviens, n'est pas une nouveauté au XVIIIe siècle. C'est depuis Christine de Pizan, au début du XVe siècle, il y a des écrits de femmes qui défendent la cause des femmes. Mais Louise Dupin appartient à un courant minoritaire dans le féminisme classique qui consiste à défendre la stricte égalité des femmes. Au XVIIe siècle, les précieuses considèrent plutôt que les femmes sont supérieures. Elles insistent sur la supériorité des femmes, par exemple en termes de sensibilité, d'imagination, laquelle serait peut-être plus supérieure à la raison masculine, je schématise. Et Louise Dupin est l'élève, si vous voulez, ou est inspirée par un féministe qui s'appelle François Poulain de la Barre, qui écrit « De l'égalité des deux sexes » en 1673. Et en quelque sorte, l'ouvrage de Poulain de la Barre sert de matrice à la pensée de Louise Dupin. Si on remonte un peu avant, il y a Marie de Gournay, qui est la fille d'Alliance de Montaigne, qui va publier, qui va travailler à l'édition posthume des essais. Mais en fait, elle aussi est une tenante de la stricte égalité et non pas de la supériorité féminine. Donc il y a cette filiation Marie de Gournay, Poulain de la Barre, Louise Dupin.
Donc son féminisme n'est pas original dans le sens où il a déjà été travaillé, mais c'est un féminisme original parce qu'il est minoritaire encore. C'est-à-dire que de défendre l'égalité n'est pas la tendance féministe du siècle des Lumières, c'est ça ?
C'est ça, du moins du XVIIe siècle. De ce point de vue-là, elle fait partie d'un tout petit groupe d'auteurs.
Oui.
Pour répondre à votre deuxième question...
Sur l'encyclopédie.
Oui. Elle est la première, à mon sens, à avoir une visée aussi panoramique sur la question. Au XVIIe siècle, Poulain de la Barre, par exemple, utilise des arguments théologiques. Louise Dupin les emploiera beaucoup moins. Elle a vraiment une visée généraliste. Elle va organiser son ouvrage sur les femmes en 47 chapitres et en 4 parties, en fait. Une partie physique, une partie historique, une partie juridique et une partie morale. Mm-hmm. La partie historique est l'occasion de faire un tour du monde, de la condition des femmes et du rôle que les femmes ont pu jouer dans l'histoire. Partant du fait, selon elle, que les femmes ont joué un rôle historique plus important qu'on ne le dit dans le passé, et que la situation de son siècle, pour les femmes, est une situation peu enviable par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Et elle le justifie, elle mène des recherches, c'est une chercheuse très rigoureuse, elle mène des recherches poussées, et Jean-Jacques Rousseau fait un travail de documentation, il se rend à la Bibliothèque du Roi, il consulte de très nombreux ouvrages, il consulte plus de 90 ouvrages sur lesquels il rédige des fiches de lecture, des extraits de lecture.
Donc elle a pu faire tout son travail de pensée argumentatif à partir du travail de recherche de Jean-Jacques Rousseau.
Oui, elle commande à Jean-Jacques Rousseau, elle lui donne une liste de recherches
de livres à lire,
il les lit, il en tire des extraits de lecture. Alors parfois, c'est un vrai travail de bénédictin. Hein. Oui. Jean-Jacques Rousseau va par exemple travailler sur l'histoire ecclésiastique de l'abbé Claude Fleury, 36 volumes. Il va en tirer un extrait de lecture de 140 feuillets. Donc, les extraits de lecture constituent un ensemble de 1200 feuillets à peu près. Donc, le travail de Jean-Jacques Rousseau est assez phénoménal pour alimenter l'ouvrage sur les femmes. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que ces énormes recherches aboutissent à des chapitres courts.
Donc, voilà, c'est ça, j'allais dire, sous quelle manière, après, parce que ça, c'est tout le travail de recherche qui se fait en amont, mm-hmm. mais en aval, on a aussi tout un travail de conclusion, d'argumentation, de réflexion, de conclusion, où tout est digéré et assez réduit.
C'est ça. On a un ouvrage finalement assez bref en termes de feuillets par rapport à ce que représente l'ensemble des recherches. Pour vous donner quelques exemples, Louise Dupin s'intéresse à des civilisations étrangères. Mm-hmm. Elle considère par exemple qu'à Constantinople, les impératrices avaient un rôle beaucoup plus important qu'on le croit à son époque, ou même que les reines peuvent l'avoir en France, évidemment. Elle s'intéresse aussi, par exemple, au rôle des femmes dans l'islam. Dans l'entourage du prophète, elle considère qu'à cette époque-là, le rôle des femmes n'avait rien de mineur. Elle prend l'exemple des femmes du prophète, comme Aïcha, qu'on a surnommée la mère des fidèles, ou encore une autre femme du prophète, Hafsa, qui fut dépositaire de l'exemplaire du Coran. Donc, elle considère que, par le passé, les femmes sont loin d'avoir joué un rôle aussi mineur qu'on veut bien le penser, et que les préjugés le laissent penser.
Il bon se venger. Ici, en ce moment même, dans la chambre du paysan, il prépare un carnage chez les six.
Je fais une enquête, hein, je fais l'assassin.
Tu les as vus. Ils sont ivres de haine. Ça fait des semaines qu'ils rassemblent des hommes et des armes. Ils vont les retourner contre
eux. Mais moi aussi j'ai des armes, moi aussi j'ai des hommes.
Ils sont des milliers, invités au mariage. Trop contents de nous montrer leur force. Là maintenant, ils vont s'en servir.
C'est mon père, j'ai juré de faire justice.
Arrête de l'appeler ainsi. Ton père, s'il était ici, saurait ce qu'il faut faire. Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il sait faire.
Tiens, regarde Guise, il a compris, lui. Il s'est attaqué avant qu'on l'attaque.
Tu m'accuses ?
On a retrouvé ton pistolet.
Mais tant mieux. Tant mieux, c'est un crime que j'aurais adoré commettre.
On te reproche rien. Il fallait pas le rater, c'est tout.
Protège Coligny, écoute Guise. Mets toutes tes forces de roi incapable au service de la justice. Tu plongeras ton royaume dans la ruine quand j'ai fait tout ce que je peux pour le redresser. Toute la sale besogne depuis que ton père est mort, c'est moi. Oui, c'est moi qui l'ai faite. Je continuerai.
C'est vous.
Je sauverai mes enfants. Je donnerai ma vie.
C'est vous qui avez fait tirer sur la mienne, Nicolas.
Moi, celle.
L'histoire étant un tableau de la vie humaine, il faut bien y retrouver les femmes, mais en même temps l'histoire, copiant ce qu'elle voit et voyant peu de femmes sur la scène, a peu d'occasion de parler d'elles. Quand la vérité des faits ou la liaison l'oblige à les citer en bien, on sent qu'elle les loue avec modération. Quand elle peut les citer en mal, c'est avec plus d'abondance et l'on sent que c'est plus volontiers. Quand on voit la manière de faire valoir les vices de quelques méchantes reines, non seulement comme on parle de Brunehaut, d'Isabeau de Bavière et de Catherine de Médicis, mais ce qu'on dit des femmes à leur occasion, on a envie de rire, de lire les mauvaises actions des des méchants rois narrés tout simplement et sans tirer à conséquence sur le caractère général des hommes. Voilà ce que dit Louise Dupin. Alors là, c'est son discours préliminaire sur les femmes. C'est une version beaucoup plus ramassée en fait de son texte dont on parlait juste avant Frédéric Marty. On vient d'entendre un extrait de La Reine Margot de Patrice Chéreau où on entend justement ce dessin, ce tableau fait de Catherine de Médicis en mère reine tyrannique qui tient ses fils et le roi, comment on pourrait dire, en gros, qui les dirige, qui est sous leur autorité. Est-ce que c'est ça contre quoi Louise Dupin, en fait, a combattu ?
Oui, alors c'est intéressant parce qu'en fait, récemment, j'ai eu l'occasion de découvrir des manuscrits sur un site de vente en ligne à un prix dérisoire, parce qu'on ne savait pas vraiment que c'était des manuscrits de Louise Dupin, et qui, en fait...
Ah bon ? Sur un site comme ça, des manuscrits de Louise Dupin ?
C'est ça, en fait, on m'a averti de la... Ah. Une personne s'est portée acquéreuse et m'a averti de l'existence de ces manuscrits, et il se trouve que c'est un ensemble de manuscrits qui sont rédigés et qui sont un catalogue des reines de France. Elle défend l'une après l'autre les reines de France lorsque c'est nécessaire, parce qu'il faut tout de même penser que Louise Dupin a une pensée équilibrée. Lorsque une mauvaise reine est une mauvaise reine, elle le dit. Lorsque c'est une bonne reine, elle le dit aussi. Et effectivement, ça fait partie des joies de la recherche, si vous voulez. Mais pour
de tomber sur des manuscrits en ligne.
C'est ça. Et pour tout vous dire, en fait, c'est mon prochain livre qui devrait sortir sur l'éloge des reines, en fait. Mmh. Et effectivement, si vous voulez, Louise Dupin considère que les historiens, en général, il y a des exceptions, mais se comportent assez mal vis-à-vis des reines de France, en rendent de mauvais comptes. Et donc, elle essaie de rétablir la vérité. Les reines mérovingiennes ne sont pas aussi mauvaises qu'on peut le dire. Alors, Catherine de Médicis, l'avis de Louise Dupin est mesuré. Elle pense pas que, elle a un avis mesuré. Elle en reconnaît les torts, mais elle en reconnaît aussi les mérites. Donc, en quelque sorte, il y a une volonté effectivement de montrer que les femmes ont pu tenir un rôle, et notamment sur la question des régentes. Elle critique l'historien du XVIIe siècle, Mézeray, qui semble oublier qu'il y a eu des régentes, et elle insiste sur ce rôle-là.
Alors, cette question des reines est pas si anecdotique que ça, parce qu'en fait, il y a un argument crucial chez Louise Dupin qui consiste, en fait, et ça se ressent parfaitement dans son discours préliminaire, à examiner d'abord le concept de nature pour ensuite examiner celui d'histoire. Et elle en revient, en fait, à dire si on s'intéresse à la nature, il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Donc, si il n'est pas question de nature, si la cause de cette différence ne se situe pas dans la nature, c'est que la cause de cette différence doit se situer dans l'histoire. Et c'est là où elle en vient à un argument qui est extrêmement actuel sur la différence entre les hommes et les femmes, c'est celle de la construction des préjugés. Et elle dit bien, dans le passage que j'ai lu, mais aussi dans son discours préliminaire, parce que c'est vraiment un argument qui file tout son propos, elle revient bien sur le fait que, effectivement, tout ça est une question de construction. On s'est construit des préjugés, on a construit de l'inégalité. Comment en est-elle venue à façonner cet argument qui est pour nous si actuel sur la construction des préjugés?
Alors, elle part de l'idée de l'égalité naturelle entre les sexes, à l'état de nature. De ce point de vue-là, on peut établir un parallèle avec Rousseau dans la construction d'un état de nature, mais ce ne sont évidemment pas les seuls philosophes à construire leur réflexion là-dessus. Elle est assez drôle, Louise Dupin. Elle n'hésite pas à la lecture à être ironique, parfois une ironie voltairienne. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle considère que les femmes, au premier temps de l'humanité, ont joué un rôle égal à celui des hommes, très certainement. Les hommes ne se sont pas isolés pour inventer le langage. Les femmes ont dû y participer aussi. Bref, on a un état de nature qui est celui de l'égalité, et puis ensuite une dégradation progressive de l'état de la condition des femmes, et notamment par des législations, en fait, qui vont devenir de plus en plus défavorables aux femmes. Le rôle de la guerre, d'ailleurs, n'a pas été innocent, enfin, n'a pas été neutre dans tout ceci. Les hommes, profitant d'un peu plus de force, et encore, elle en discute, ont pu prendre l'ascendant. Donc les femmes se sont retrouvées dans une situation beaucoup plus délicate, notamment en raison des législations. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, elle lutte contre les préjugés, Louise Dupin, et elle veut changer les choses de deux points de vue. D'abord, d'un point de vue juridique, elle veut une réforme de la société française assez globale, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Et puis, elle veut aussi changer les mentalités. Et ça, pour elle, c'est essentiel. Elle considère que les mentalités ont besoin, effectivement, d'être revus. Et pour cela, l'arme majeure, c'est l'éducation. Il faut éduquer, c'est un thème majeur au XVIIIe siècle. Il faut éduquer, il faut que les garçons mettent un point d'honneur à respecter les jeunes filles. Notamment, il y a un article sur le viol où elle explique effectivement qu'il faut que le point d'honneur soit au respect des jeunes filles. Elle considère qu'il y a toute une construction, des représentations mentales qui, dans la société, sont néfastes pour les femmes. Notamment, en termes la littérature, les arts par exemple, le théâtre. Mmh. Le théâtre représente les femmes toujours devant se sacrifier par amour.
En pleurs.
En pleurs. Tragédienne. C'est caché Racine, par exemple, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que les moralistes aussi ont un rôle là-dedans. Elle n'hésite pas à épingler quelques formules de La Bruyère ou de La Rochefoucauld. Elle considère que dans les livres en général, les femmes sont desservies chez les moralistes, chez les historiens, on l'a dit, chez les voyageurs. Les récits de voyage, tirent de ce que les voyageurs tirent de ce qu'ils ont vu à l'étranger, des préjugés défavorables aux femmes. Le langage aussi. Le langage aussi charrie des préjugés négatifs.
Par exemple,
le dernier chapitre, le chapitre 47, n'est pas très développé, puisque le livre est inachevé, mais évidemment, le terme d'efféminé, par exemple, joue contre les femmes. Elle note aussi que quand on veut parler d'une femme qui est un honnête homme, on dit un honnête homme, on ne dit pas une honnête femme. Donc, il y a une réflexion sur le langage. Donc, il y a tout un tas de représentations mentale qu'il faut travailler, et l'éducation a un rôle majeur là-dedans. Elle veut que filles et garçons aient strictement les mêmes programmes, étudient dans des collèges organisés de la même manière. Elle considère que les ordres religieux qui prennent en charge l'éducation des jeunes filles, malheureusement, notamment en raison du Concile de Trente, sont moins efficaces parce que les religieuses ne peuvent plus sortir, par exemple chez les Ursulines, ne peuvent plus sortir et du coup sont moins à même de cultiver les jeunes filles qu'elles ont à éduquer.
Elle décrit très bien ce mouvement, Louise Dupin, qui se produit, à savoir la construction de ce préjugé. Ce préjugé à court parce que les hommes le propagent, les femmes se l'approprient et tout le monde y croit. Et les institutions sont vidées des femmes ou interdites aux femmes parce que les femmes elles-mêmes, en fait, ne pensent pas pouvoir être à la hauteur pour y aller, et les hommes ne pensent pas que c'est envisageable que les femmes puissent y rentrer. Donc il y a comme ça une sorte de cercle vicieux qu'elle décrit très bien. On l'a entendu dans l'extrait que j'ai lu sur l'histoire, c'est-à-dire que on représente peu de femmes dans l'histoire, mais pourquoi ? Parce qu'il y en a eu peu. Et comme il y en a eu peu, on pense que les femmes font peu l'histoire. Donc elles ont peu accès à des rôles de pouvoir et à des rôles décisionnaires. Et ça, c'est presque un mouvement dialectique qu'on retrouve à chacun de ces passages ou à chacune de ces sous-parties, en fait, dans chacune des dimensions qu'elle étudie de cette inégalité entre les hommes et les femmes, Frédéric Marty.
Oui, c'est ça. Et en fait, elle considère que, tant d'un point de vue historique que physique, il y a des représentations qu'il faut corriger, notamment dans la partie physique. Elle considère que s'il y a une différence physique entre hommes et femmes, elle n'est pas significative. Et elle dépend en partie de l'éducation. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas l'occasion de pratiquer des exercices physiques comme les garçons à cette époque. Et elle considère même qu'il faudrait des outils statistiques pour vraiment pouvoir statuer sur cette question. De même, chez les scientifiques, elle considère qu'il y aurait à redire. Dans l'ouvrage des femmes, elle parle de la question de la génération, c'est-à-dire la question de la reproduction. Il y a deux théories qui s'opposent à l'époque. D'un côté, l'ovisme, et de l'autre côté, l'animalculisme. On vient de découvrir au XVIIe siècle, grâce à un microscope, les spermatozoïdes. Et elle considère que ces deux théories sont à rejeter. Pourquoi ? Parce que l'ovisme statue sur la préexistence de l'embryon dans l'ovule. Et l'animalculisme statue sur la préexistence de l'embryon dans les spermatozoïdes. Donc l'une penche du côté de la femme, l'autre du côté de l'homme, et elle rejette les deux théories, et c'est en fait à son honneur, parce qu'elle pourrait facilement s'appuyer sur la théorie de l'ovisme, Réaumur le fait d'ailleurs, enfin, et elle rejette les deux théories, elle dit que à son époque, on ne peut pas trancher là-dessus, elle considère que le rôle des deux sexes est égal.
Et un des arguments auxquels elle s'en prend de ceux qui perpétuent cette inégalité entre les hommes et les femmes au nom d'une prétendue nature se servent notamment effectivement de la procréation et de la grossesse. Elle dit très bien, alors ça m'a quand même un peu époustouflée, je lis pas le passage en entier, mais enfin il est quand même, il faudrait qu'on le mette sur le site parce qu'il est très croustillant. Elle dit l'état de mettre un enfant au monde quand on se porte bien ne demande pas plus de 15 jours de cessation d'affaires, et l'état qui précède ce moment permettant d'aller en visite, aux promenades et aux spectacles permettrait également d'aller et venir pour les affaires et de s'en entretenir. Et elle ajoute « Et d'ailleurs, à 45 ans, les femmes n'étant plus dans le cadre de cette nature d'excuses et pouvant vivre encore fort longtemps, il n'est pas raisonnable de les laisser oisives et il est injuste de les tenir sous une tutelle qui n'en devient que plus cruelle parce qu'elles ne sont plus jeunes. » Alors cet argument de la grossesse, elle est il est démonté, mais avec une facilité. Et c'est vrai que quand on lit Louise Dupin, alors vous l'avez dit, non seulement c'est drôle, c'est très très ironique, mais en plus elle balance des sortes d'évidences comme ça qu'on n'a pas l'impression de lire, qu'on ne croit pas pouvoir lire, en tout cas dans un texte de 1750, 1740, 1750.
Oui, elle considère que la grossesse ne doit surtout pas disqualifier les femmes et que les femmes doivent pouvoir s'occuper d'affaires économiques, gérer leurs affaires, s'occuper d'affaires politiques. En fait, Louise Dupin considère que les femmes doivent avoir accès à toutes les professions. C'est déjà le cas chez son inspirateur Poulain de la Barre, mais elle veut vraiment une égalité professionnelle. Si je peux me permettre, je vais lire une citation. Voilà ce qu'elle dit. « Je voudrais bien savoir si la nature, en faisant des hommes, a fait des avocats, des conseillers au Parlement, des curés, des évêques, des soldats, des capitaines, des académiciens, des philosophes, et toutes ces espèces de choses dont l'emploi relève en un sens la condition des hommes en comparaison de celle des femmes. » Elle considère que les femmes peuvent accéder à toutes ces professions. Pourquoi pas une femme évêque? Pourquoi pas une femme avocate ou conseillère au Parlement ou président de tribunal? On peut dire clairement qu'ici, elle est assez radicale de ce point de vue-là sur la question des professions. Oui.
France Culture. Sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
De la Louise, sans des portes d'église, où j'entre le matin, le chapeau à la main. De la Louise, penses-tu ce qu'elles me disent, où c'est du caraco, le rubis d'un mégot. Après tout, peu importe, où j'allume ma clope, au premier feu du jour, ou aux foudres de l'amour. Si les miennes se grisent, à tes lèvres Louise. Sur tes lèvres, Louise, les miennes sont assises, je ne décolle plus les fesses de ce banc de messe. Tes lèvres, Louise, crois-tu ce qu'elles me disent, où cette basilique est un kiosque à musique? Après tout, peu importe, où j'allume ma clope, si ce n'est pas l'amour, ce sont les alentours. Si les miennes se grisent, à tes lèvres, Louise. Louise est arrivée tantôt, de tes lèvres cerises, elle porte le son. Tes lèvres Louise me donne congé, ma rage s'épuise sur mes ongles rongés. Paris te contient et je suis jaloux comme un chien, je reviens gratter à ta porte. Tes lèvres sont closes, Louise, tu m'envoies sur les roses. Dis-moi quelque chose, rien. rêve plus que tu passes la nuit en bas de l'avenue sous un parapluie.
Suzanne Simonin, promettez-vous de dire la vérité?
Je le promets.
Est-ce de votre plein gré, de votre libre volonté que vous êtes ici?
Non. Oui.
Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance?
Non, monsieur.
Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance?
Non, monsieur, non.
Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi.
Monseigneur, vous me demandez si je promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu. Je vous réponds que non. Messieurs, et surtout vous, mon père et ma mère, je vous prends tous à témoin. Je suis ici contrainte et forcée. J'ai fait semblant jusqu'à ce jour de suivre la volonté de mes parents pour protester publiquement contre la violence qu'on veut me faire. Je n'ai aucune vocation. Je ne veux pas obéir à mes parents. Sœur, faites-moi tout ce qui vous plaira, tout, excepté religieuse. Qu'elle me fasse là, qu'elle me fasse là. Non.
La religieuse de Denis Diderot, publiée en 1796, adaptée ici par Jacques Rivette en 1967 avec Anna Karina dans le rôle de Marie-Suzanne Simonin qui refuse d'entrer dans les ordres pour cet extrait, pour aborder Frédéric Marty. L'autre pan de la réforme proposée par Louise Dupin, alors on a parlé du versant philosophique de sa pensée, la critique de la corruption de l'état de nature, de l'égalité naturelle entre les hommes et les femmes par la société. On a commencé à aborder un petit peu quelques réformes politiques, professionnelles, mais on n'a pas encore abordé ce qui constitue un gros morceau en fait de sa réforme, la réforme juridique, mais aussi la réforme de l'Église, parce que l'Église continue à perpétuer un certain nombre de préjugés, d'inégalités entre les hommes et les femmes.
Oui, alors les cris de Suzanne Simonin ici marquent ce contre quoi Louise Dupin lutte, c'est-à-dire l'esclavage des femmes. Alors le texte de Diderot est postérieur,
il y a 40 ans quasiment,
oui voilà, même si le texte de Diderot est en gestation à partir de 1760. Mais en fait, Louise Dupin s'oppose à la stricte clôture des femmes. Elle considère que le Concile de Trente, le Concile de la Contre-Réforme, a durci les conditions et la clôture des femmes, et notamment la mainmise des évêques sur les couvents. Et elle considère que les mères abbesses devraient avoir plus de pouvoir et que les femmes devraient pouvoir, les religieuses devraient avoir plus de liberté. Et cette réforme de l'Église passe aussi par l'abandon du célibat des prêtres. Elle considère que les prêtres sont mariés dans les églises orthodoxes ou dans les églises protestantes, et pourquoi pas dans l'Église catholique. Voilà ce qu'elle envisage effectivement.
Ça, c'est assez novateur quand même, faut le dire.
Oui.
Le célibat, de s'opposer au célibat des prêtres, ou en tout cas de prôner le mariage en fait dans le cas des prêtres, c'est quelque chose qui était très peu dit.
Alors ça s'inscrit dans une tradition littéraire. Je pense à Rabelais notamment et à ça et à son Abbaye de Thélème, Faille ce que voudras par exemple. Mais il y a là une prise de position qui est assez audacieuse, même si on l'a entendu chez Diderot par exemple. C'est une position que les philosophes des Lumières prennent volontiers. Certains des philosophes des Lumières prennent volontiers.
Mais qui est un peu paradoxal quand même avec sa vision du mariage. C'est-à-dire que s'il y a bien un endroit, parce qu'il faut le dire, on pourra en reparler, Louise Dupin était quand même monarchiste, mais s'il y a bien un endroit où elle était plutôt républicaine, c'était quand même pour le couple. Elle dit par exemple dans son discours préliminaire sur les femmes, l'on dit froidement qu'une femme est en puissance de mari et cela signifie qu'aucune de ses actions civiles ne saurait avoir de validité sans l'autorisation de son mari. Cela signifie bien davantage, car au vrai, cela dit qu'elle est entièrement dans sa dépendance. Cela ne peut s'expliquer que par la tyrannie, car on ne peut en trouver le fondement dans la justice. L'indépendance et la liberté sont un droit naturel qui appartient aux femmes comme aux hommes. Donc on retrouve là là, l'argument, en fait, du droit naturel qu'on pouvait trouver aussi chez Rousseau et dont on a parlé avec l'état de nature, l'égalité et la sociabilité naturelle entre les hommes et les femmes. Mais là, ce qu'elle dit sur le mariage, c'est assez dur. D'ailleurs, elle va vouloir aussi défendre le divorce qui entrera en vigueur quand elle sera encore vivante en 1792. Donc, il y a quand même de défendre le mariage des prêtres tout en condamnant le mariage. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction chez elle ?
Alors, la question du mariage des prêtres se pose dans une optique démographique. Au début du XVIIIe siècle, on est persuadé que la France est en dépopulation. Il y a les lettres populationnistes des lettres persanes de Montesquieu. Donc, elle n'est pas la seule à penser cela. Mais il n'y a pas de contradiction, en fait. Elle considère que les prêtres doivent pouvoir se marier parce qu'en fait, il n'y a rien de mal dans le mariage et dans l'union d'un prêtre avec une femme. Ça, c'est pour cette idée-là. Ensuite, pour ce qui est de la réforme des contrats de mariage, effectivement, c'est un point vraiment capital pour elle. Elle demande aux femmes de réclamer justice devant les tribunaux, y compris parce qu'elle considère que la situation de la femme dans le mariage est totalement injuste. Elle considère que les hommes gèrent les biens des femmes sous prétexte qu'elles n'en sont pas capables, que le mariage est l'occasion effectivement de s'approprier pour les maris les biens des femmes. Donc, elle voit là une injustice. Et du coup, elle imagine un mariage renouvelable à durée déterminée, si on veut, hein, de 12 à 15 ans, le temps d'éduquer les enfants. Cela dit, elle considère...
C'est quand même long comme CDD de mariage. Hein.
C'est vrai, mais elle considère que le mariage ne doit pas être un esclavage. Cela dit, elle considère que dans le mariage réside sans doute le bonheur le plus fort. Donc elle n'est pas du tout opposée au mariage. Elle considère que le mariage, c'est ce qui se fait de mieux, mais à condition qu'il y ait une égalité entre les deux époux. Effectivement, dans ce cas-là, elle dit que les deux époux n'auront rien de mieux à faire que de vivre ensemble toute leur vie. Donc il y a quelque chose d'assez beau, mais elle est assez radicale. Et elle est assez radicale sur un mariage inégal qui ne permet pas le bonheur. Elle est aussi favorable au divorce, même si l'article sur le divorce n'est pas reparu. Ça fait partie des articles de l'ouvrage sur les femmes dont on ne dispose pas encore. Elle est aussi pour une réforme de l'état civil. Considère que les femmes doivent pouvoir donner leur nom à leurs enfants. Elle pense aussi que les généalogies peuvent être fondées sur le premier-né, si c'est une femme. La femme doit pouvoir donner son nom à son conjoint et à ses enfants si elle est la première-née. Enfin voilà, il y a toute une réflexion qui n'est pas entièrement nouvelle pour le cas, parce que les précieuses du XVIIe siècle pouvaient être assez novatrices dans le domaine, mais on a là un projet vraiment global de réforme de la société. Et j'en profite pour parler de la réforme institutionnelle qui est l'abolition de la loi salique.
Allez-y.
Elle considère que la France est défavorisée de ce point de vue-là. C'est-à-dire que dans de nombreux pays européens, les femmes règnent, gouvernent, j'entends bien, l'Angleterre, la Russie, par exemple. Pensons à Elisabeth Ier en Angleterre, par exemple. Mais ce n'est pas le cas en France. Donc, elle est favorable à l'abolition de la loi salique. Et elle considère que la famille régnante s'en porterait mieux, puisqu'elle pourrait se perpétuer en laissant le pouvoir à ses filles.
Donc il y a quand même un certain nombre de réformes très concrètes. Donc on a parlé effectivement de l'harmonisation de l'éducation, vous venez de parler du fait de porter le nom de sa mère, on a parlé d'ouvrir les métiers à toutes, l'abolition de la loi salique, l'accès donc au poste de pouvoir, au pouvoir en général, et puis aussi le port d'armes pour les femmes, pour éviter le viol. La question du viol, ça aussi c'est quelque chose, est-ce que c'était nouveau d'en parler à ce moment-là? Parce que depuis tout à l'heure, Frédéric Marty, on évoque un certain nombre de points sur lesquels, auxquels s'est attachée Louise Dupin, qui sont à la fois dans l'air du temps, pas complètement nouveau, mais quand même un petit peu dans la manière de les formaliser sous forme encyclopédique et de manière sous forme de réforme en fait, hein, juridique et politique. Est-ce que là, sur le viol, c'est aussi, ça s'inscrit aussi dans un courant de pensée dans l'air du temps de l'époque ou pas du tout? C'est quelque chose d'assez neuf.
Alors, Je pense au texte de Diderot, dont on a parlé tout à l'heure, où Suzanne Simonin, en quelque sorte, est abusée, mais cette fois-ci par une mère abbesse, par une femme, mais on a le récit en focalisation interne, en quelque sorte, alors que Suzanne Simonin n'en est pas consciente, d'un abus. Donc, ce n'est pas... Alors, il y a toute une littérature libertine aussi qui peut approcher de ces questions-là. Ce que dit Louise Dupin, en fait, c'est qu'un homme puissant, un homme de qualité, peut abuser d'une fille de condition modeste, les tribunaux n'iront pas lui chercher noise. Et en cela, il y a peut-être quelque chose d'assez actuel, effectivement. Donc sur la question du viol, effectivement, elle développe cette idée-là. Elle développe aussi l'idée qu'on pourrait armer les femmes, effectivement. Mais ce qui lui importe surtout, c'est que le point d'honneur des hommes soit à respecter les femmes. Donc c'est une question d'éducation avant tout.
Sa maison, aussi brillante alors qu'aucune autre dans Paris, rassemblait des sociétés auxquelles il ne manquait que d'être un peu moins nombreuses pour être d'élite dans tous les genres. Elle aimait à voir tous les gens qui jetaient de l'éclat. Les grands, les gens de lettres, les belles femmes. On ne voyait chez elle que ducs, ambassadeurs, cordons bleus. Madame la princesse de Rohan, Madame la comtesse de Forcalquier, Madame de Mirepoix, Madame de Brignolet, Milady Hervey pouvaient passer pour ses amis. Monsieur de Fontenelle, l'abbé de Saint-Pierre, l'abbé Salier, Monsieur de Fourmont, Monsieur de Bernice, Monsieur de Buffon, Monsieur de Voltaire étaient de son cercle et de ses dîners. Si son maintien réservé n'attirait pas beaucoup les jeunes gens, sa société d'autant mieux composée n'en était que plus imposante. Et le pauvre Jean-Jacques n'avait pas de quoi se flatter de briller beaucoup au milieu de tout cela. Je n'osais donc parler, mais ne pouvant plus me taire, j'osais écrire. Elle garda 2 jours ma lettre sans m'en parler. Le 3e jour, elle me la rendit, m'adressant verbalement quelques mots d'exhortation d'un ton froid qui me glaça. Je voulus parler, la parole expira sur mes lèvres. Ma subite passion s'éteignit avec l'espérance, et après une déclaration dans les formes, je continuai de vivre avec elle comme auparavant, sans plus lui parler de rien, même des yeux.
Jean-Jacques Rousseau est conduit par Louise Dupin. On en a parlé en début d'émission, Frédéric Marty. C'est la suite du texte qu'on avait entendu en ouverture de cette émission, Les Confessions, livre 7. On entend aussi, surtout dans cet extrait, la description du salon de Louise Dupin. Il y avait du beau monde, hein, il faut le dire. Elle animait, elle est une figure intellectuelle de son siècle, c'était indéniable. Quels étaient ses rapports avec tous ces hommes, tous ces intellectuels, alors même qu'elle ne s'empêche pas de les épingler dans ses textes sur les femmes, où elle épingle bien leurs préjugés et leur misogynie.
Alors peut-être juste une petite remarque, on dit que Rousseau n'est pas drôle, moi je trouve le texte qu'on vient d'entendre assez drôle.
Il est drôle et paranoïaque.
Oui, c'est ça. Mais il se prête à son désavantage, mais il nous fait sourire de lui-même
oui,
et de son rapport à Louise Dupin.
Mais je
referme la parenthèse. Rousseau, lui, n'est qu'un secrétaire. Il écrit sous la dictée de Louise Dupin. C'est elle qui dirige l'entreprise, le projet, on va dire. Mais effectivement, elle fréquente beaucoup de beau monde. La correspondance avec Voltaire prouve qu'il y avait des liens. Elle était musicienne aussi. Elle jouait du clavecin. Et Voltaire lui confie même un temps la mise en musique du livret de Pandore. Ça ne va pas durer parce que le duc de Richelieu va finalement trouver d'autres compositeurs, mais il y avait une troïka avec Dupin de Franqueuil et Géliot. Louise Dupin devait mettre en musique.
D'ailleurs, Voltaire dit, il la surnomme la déesse de la beauté et de la musique. Juste, j'en profite, quand je cite ça, Frédéric Marty, pour souligner le fait que Rousseau, Voltaire, ne cesse de louer la beauté de Louise Dupin. Mais dans ce qu'on a entendu de Rousseau, par exemple, il n'y a rien sur l'esprit. de Louise Dupin. Donc, justement, c'est pour ça que je vous pose la question de quels étaient ses rapports avec les hommes qu'elle fréquentait dans son salon, les intellectuels de l'époque, parce que eux ne semblent parler que de sa beauté et elles ne semblent parler que de leurs préjugés misogynes. Alors, est-ce que c'était véritablement un lieu de circulation et d'échange intellectuel, ce salon de Louise Dupin ?
Alors, sans doute. Alors, c'est compliqué, on n'a pas le script de ce qui se disait à l'époque. Mais en fait, on peut s'arrêter sur le cas de Rousseau et de Montesquieu,
oui.
Peut-être.
Ah, oui, oui, très bien, très intéressant.
Alors, un des chantiers, et je serai très précautionneux là-dessus, un des chantiers de recherche actuelle, c'est d'étudier les manuscrits de la Critique de l'Esprit des Lois par le couple Dupin, aidé de deux jésuites, dont le père Berthier. Bon, on l'a dit tout à l'heure, les Dupin, Claude et Louise, donc les époux, défendent la monarchie absolue et le système de la ferme générale, puisque Claude Dupin, le mari de Louise Dupin, est fermier général. Mais cela dit, Louise Dupin, elle, s'intéresse plus précisément à la question des femmes. Et elle considère que Montesquieu, le livre de Montesquieu, est rempli d'épigrammes contre les femmes, hein, de traits spirituels, mais critiques, satiriques contre les femmes. Et elle les relève. Par exemple, au livre 7 du chapitre 8, les femmes corrompent même avant d'être corrompues. Voilà ce qu'elle puise chez Montesquieu. Ou encore, Montesquieu écrit « On ne se conduit que sur les maximes du ridicule que les femmes s'entendent si bien à établir. »
Mais pourquoi elle s'en prend-elle à Montesquieu ? C'était des propos qu'on peut trouver, je pense, par milliers à l'époque du siècle des Lumières et même encore aujourd'hui. Pourquoi Montesquieu, avec son Esprit des Lois, donc, qui, je le rappelle, en fait, paraît en 1648, qui a un énorme succès, pourquoi là, chez lui, elle est heurtée et pourquoi elle entreprend d'écrire quand même un énorme, plusieurs volumes, une énorme critique, une énorme réfutation, en fait, de l'Esprit des Lois ?
Alors, Elle traite Montesquieu comme les autres, c'est-à-dire que elle va chercher chez tous les penseurs, historiens, scientifiques ou autres hommes de lettres, elle va traquer des traits qui sont défavorables aux femmes. Alors évidemment, Montesquieu est un penseur immense, il ne s'agit pas de compter les points entre Montesquieu et Louise Dupin, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une lecture féministe de l'Esprit des Lois dès la sortie de l'Esprit des Lois, c'est-à-dire en 1749, dans l'année qui suit la publication de l'Esprit des Lois. Alors, on peut trouver cette critique pertinente ou impertinente, mais elle existe. Et c'est une découverte récente. Alors, il y a des sujets d'accroche, hein, dans ce débat sur la question de la polygamie, sur la question du luxe. Louise Dupin considère que Montesquieu rend les femmes trop responsables des effets néfastes du luxe. Tous deux considèrent que le luxe favorise l'essor du commerce, et d'un ce point de vue-là, ils sont d'accord. Mais elle relève des épigrammes, des traits satiriques envers les femmes qui ne lui plaisent pas. Et elle traite Montesquieu comme les autres, en quelque sorte. Alors, effectivement, Montesquieu et les Dupin se sont fâchés.
J'imagine, nettement, il a du mal à le prendre.
Alors que Montesquieu fréquentait le salon de Louise Dupin. Voilà.
Alors revenons maintenant à Rousseau. Rousseau a quand même été le secrétaire de Louise Dupin, notamment en ce qui concerne les recherches qui vont constituer la matière de son livre sur les femmes. Et puis Rousseau, quand même, écrit des textes sur les femmes. Alors pas directement, mais c'est notamment en fait dans son traité sur l'éducation, L'Émile, paru en 1762. Il y a cinq livres, les premiers sont surtout consacrés à l'éducation d'Émile. Et puis Émile, il rencontre à un moment donné une fille qui s'appelle Sophie. Et là, Rousseau soutient que l'éducation entre les garçons et les filles doit être différente, strictement différente, parce qu'il y a une différence de nature entre les deux sexes. Et donc, on doit adapter l'éducation à la différence de nature entre ces deux sexes. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1740 et 1762 ? Donc, on va dire une vingtaine d'années, mais en gros, il a dû commencer à rédiger L'Émile un peu avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour Rousseau pour qu'il abandonne l'idée de cette thèse de Louise Dupin, qui était l'absence de différence entre les hommes et les femmes d'un point de vue de la nature ?
L'a-t-il jamais soutenu, cette thèse ?
Oui, ça,
thèse
c'est vrai, on ne sait pas.
On ne sait
pas. Vous avez raison.
Au début de sa carrière, il semble plutôt, dans sa jeunesse, il semble plutôt, notamment à Chambéry, chez Madame de Varens, plutôt proche des idées de Louise Dupin. Il y a certains écrits que l'on trouve en Pléiade qui laissent penser qu'il est plutôt plutôt favorable à cela. En 1758, dans la lettre à D'Alembert, il critique vivement les mondaines. Les salonnières aussi, évidemment, qui jouent un rôle trop important dans la vie intellectuelle, à son avis. Cela dit, avec Rousseau, comme avec Montesquieu d'ailleurs, ce sont des pensées complexes, il faut être toujours prudent. Il est évident que... Alors, on n'a aucune lettre qui atteste de la critique de Louise Dupin vis-à-vis de Rousseau. Leurs rapports sont toujours restés très courtois. Leurs lettres sont toujours très courtoises. Il n'y a pas de critique. On n'a pas de critique comme... Mais on peut se douter que l'Émile, la manière dont l'Émile est construit, n'a pas pu plaire à Louise Dupin parce qu'elle critique d'autres auteurs qui établissent dans leur livre une éducation pour les filles, une éducation pour les garçons, et elle veut qu'on ait un seul livre pour les deux sexes. Cela dit, la position de Rousseau est complexe. Il n'est peut-être pas aussi rigide et normatif dans ses textes de fiction. C'est ce qui fait l'avantage de Rousseau. C'est un philosophe qui écrit de la fiction, et dans cette mesure, on peut considérer, notamment dans une pièce qui s'appelle Narcisse, où l'amoureux de lui-même, Narcisse, il explique conclure qu'il pense l'ambiguïté narcissique, l'ambiguïté sexuelle à l'intérieur de chacun de nous. Ce sont des recherches récentes qui l'ont montré. Rousseau n'est peut-être pas aussi normatif, il pense aussi l'ambiguïté sexuelle.
Donc vous voulez dire qu'à côté, il faut toujours en fait confronter la théorie de Rousseau à ses textes de fiction littéraire, où effectivement la singularité des expériences va venir contredire la généralité de ses propos.
C'est ça. Les textes mineurs comptent aussi, et la nouvelle Héloïse donne une place centrale à Julie, même si à l'arrière c'est son mari Volmar qui tire les ficelles, mais effectivement, il y a une complexité évidente de la pensée de Rousseau qu'on ne peut pas réduire.
Je vais finir avec une citation de George Sand, qui est une des rares avec Rousseau à avoir écrit, à avoir laissé une trace de Louise Dupin dans la littérature. Elle dit « Madame Dupin, par modestie, ne publia jamais ses travaux. Certains résumés de ses opinions sous l'humble titre d'essai mériteraient pourtant de voir le jour, ne fût-ce que comme document historique à joindre à l'histoire philosophique du siècle dernier. » Justement, Frédéric Marty, vous avez un appel à lancer pour rassembler tous les manuscrits de Louise Dupin. C'est le moment de le faire.
Oui, merci beaucoup Géraldine. Effectivement, c'est un chantier en cours, la découverte, la redécouverte de l'œuvre de Louise Dupin. Et effectivement, toute personne possédant, étant héritier ou possédant des lettres, de la correspondance, des manuscrits, peuvent faire avancer la recherche sur Louise Dupin et la recherche sur la littérature du XVIIIe siècle. Donc évidemment, je suis preneur.
Eh bien, merci beaucoup, le message est passé, Frédéric Marty. De vous, on peut lire l'édition critique de l'ouvrage de Louise Dupin, Des femmes, observation du préjugé commun sur la différence des sexes, paru aux éditions Classique Garnier. L'édition aussi Des femmes, le discours préliminaire aux éditions Payot, que je vous recommande chaudement, ça se lit vite, c'est très drôle. Et puis aussi, de vous, Frédéric Marty, Louise Dupin, Défendre l'égalité des sexes en 1750, paru aux éditions Classique Garnier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Dans un domaine de chevreuse, au temps du bon François Ier, demeurait une dame heureuse près d'un poète chevalier. Ce beau seigneur n'était pour elle ni son époux ni son amant. Une affection pure et très belle les unissait tout simplement. Dame Louise, cheveux longs, robe à plis, parcourant le logis, ordonnant à sa guise. Dame Louise faisait tout chaque jour pour que son troubadour ait la vie plus exquise. S'il aimait bien parfois courir un brin, elle ne craignait rien. Si pour son roi il partait de longs mois, disant « Attendez-moi !» Dame Louise, restée seule au manoir, le guettait chaque soir de sa tour triste et grise. Dame Louise, près des blancs lévriers, ne cessait de prier pour son fier chevalier.
Et merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Lord à l'Est. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Anthony Thomasson. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.
France Culture, l'esprit d'ouverture.